Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La plupart des églises chrétiennes font campagne pour sauver les âmes. Elles enseignent que Dieu essaierait désespérément d'arracher le monde à la domination de Satan et de ses démons. Un tel enseignement donne l'impression que Satan est plus puissant que Dieu. Pourtant, la Bible dit clairement que Dieu n'a pas l'intention d'accorder le salut à la majorité des hommes actuellement. Jésus a simplement dit à ses apôtres, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Il n'est donc pas question de convertir un grand nombre de personnes, mais simplement d'apporter un témoignage aux nations. Jésus a ajouté, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Toutes les nations sont-elles devenues des disciples? Ont-elles été baptisées conformément aux instructions bibliques? Non, cela viendra plus tard. Je vous ai déjà expliqué que la plupart des personnes baptisées n'ont pas rempli les conditions requises pour le baptême. Elles ne sont ni repenties, ni converties. Elles continuent à vivre dans le péché qui est, comme l'apôtre Jean l'a écrit, la transgression de la loi. Comme je vous l'ai déjà exposé, Dieu a des projets pour l'humanité. Il a créé l'homme dans un but précis et il compte bien l'atteindre en suivant un plan composé de 7 étapes. Chacune de ces étapes est symbolisée par une fête divine annuelle. La signification des fêtes divines nous révèle donc le plan magistral de notre Créateur, ce plan qui nous concerne tous, bien évidemment. Après la mise à l'équerre de Satan, symbolisée par le jour des expiations, cinquième des 7 fêtes annuelles, l'étape suivante du plan divin est l'avant-dernière fête annuelle appelée fête des tabernacles. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez sous des tentes. Une tente est une demeure provisoire, un abri temporaire. Le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans sous des tentes avant d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, le chrétien est également dans une demeure temporaire. L'apôtre Pierre le confirme en écrivant « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Un voyageur ne prend pas racine, car s'il prend racine, il devient un indigène et non un voyageur. Paul compare notre corps physique à une tente, à une demeure temporaire. Il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Par définition, un ambassadeur ne réside pas dans son pays, il vit à l'étranger ou il représente son pays, sa patrie. Dans ce même passage biblique, Paul fait mention du corps qui sera le nôtre après la résurrection. S'il y a un corps animal, autrement dit un corps physique mortel, il y a aussi un corps spirituel, qui lui sera composé d'esprit et immortel. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Tout au long de son voyage, l'homme est une personne physique, le premier corps, comme Paul l'appelle. Mais au bout de ce voyage, pour autant qu'il atteigne la destination finale, le royaume de Dieu, l'homme sera dans un autre corps qui sera spirituel. La vie du chrétien sur terre est de courte durée. Il en a été de même pour Abraham ainsi que pour Isaac et Jacob. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous sommes en vie aujourd'hui, mais nous pouvons disparaître demain. L'apôtre Jacques nous dit que l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, pour disparaître ensuite. Peu de gens connaissent la véritable raison de leur existence et les projets que Dieu a formés pour l'humanité. Ce n'est pourtant pas une connaissance qui nécessite une intelligence supérieure. Dieu la livre par ses fêtes annuelles qui révèlent le grand plan divin pour l'humanité. Jean décrit ce qui arrivera aux véritables chrétiens lors du retour de Jésus-Christ. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ceux qui seront jugés dignes de participer à cette première résurrection revêtiront un corps spirituel et obtiendront l'immortalité. Ils régneront avec le Christ. L'un régnera sur 10 villes, tel autre sur 5 villes, comme l'explique la parabole des mines. Ils aideront le Christ à rétablir son gouvernement sur terre. Tous ceux qui en feront partie seront des êtres responsables, désignés par le Christ, et qui seront nés de nouveau au moment de leur accueil au sein de la famille divine. Quant à la seconde mort, elle signifie la destruction définitive dans l'étang de feu qui attend ceux qui refusent obstinément de se repentir. Actuellement, Dieu fait une alliance avec ceux qui, sincèrement et humblement, se soumettent à lui obéissent, en mettant en pratique toutes ses lois et ses commandements. Il fera la même alliance avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître au cours de leur existence et qui vivront après le retour du Christ. Paul nous le confirme en citant les paroles de l'Éternel. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Pendant le millénaire, les nations devront prendre de bonnes habitudes. Elles observeront la fête des tabernacles. Zacharie nous annonce ce qui se passera après le retour du Christ. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ne croyez pas ce que je vous dis, sans prendre la peine de vérifier tous ces passages dans votre Bible, et vous verrez que cette fête annuelle devra être observée par tous les survivants des différentes nations, quelle que soit leur nationalité. Jésus a observé la fête des tabernacles. Sa vie est un exemple que nous devons suivre et qui est consigné dans le Nouveau Testament. Jésus observa chacune des fêtes annuelles, ce qui est logique, puisqu'il n'est pas venu pour annuler la loi, mais pour la magnifier, comme il le déclare dans son sermon sur la montagne. L'apôtre Jean décrit dans son évangile des événements qui se déroulèrent environ 6 mois avant la mort du Christ. Jésus ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Elle était appelée fête des Juifs parce qu'ils étaient les seuls à l'observer à Jérusalem. En s'adressant à ses demi-frères, Jésus leur dit « Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. » Ou « Je n'y monte point encore », comme le confirment de nombreux textes et ce que révèle d'ailleurs la suite du récit. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les ennemis du Christ savaient que Jésus observait les fêtes annuelles et où le trouver à cette époque de l'année. Voilà pourquoi nous lisons que les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il ?» Sachant que le moment de son sacrifice n'était pas encore venu, mais que les Juifs cherchaient déjà à le faire mourir, Jésus décida de se rendre à la fête dans la plus grande discrétion. Il fut sur place dès le début de la fête, mais ce n'est que vers le milieu de celle-ci qu'il se mit à enseigner. Après le retour du Christ, les gens seront éduqués selon les normes divines. Ils observeront toutes les fêtes divines, et notamment la fête des tabernacles, dont ils auront vu le symbole se réaliser. Ils découvriront la mise à l'écart de Satan et tout ce que Dieu désire leur offrir. La guerre n'existera plus, les bêtes sauvages ne seront plus dangereuses, leur nature même changera. Personne ne manquera de nourriture, car les déserts deviendront fertiles. Les maladies disparaîtront, puisque chacun observera les lois de la santé dont je vous ai déjà parlé. La vérité divine, sous sa forme la plus pure, sera proclamée à tous les peuples. Désormais, nul ne sera plus séduit. Au contraire, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Voici ce que débutera la 6e étape du plan divin.